vous écoutez l'émission À nos mémoires. Le portrait de Jean d'Issy, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damaggio. Bonjour pour ce troisième moment d'histoire locale, cette troisième étape dans ce petit tour du Tarn-et-Garonne qui va nous conduire, en continuant à remonter l'Aveyron, elle va nous conduire cette étape jusqu'à Saint-Antonin-Nobleval. Saint-Antonin-Nobleval, là évidemment, les personnalités à évoquer sont très 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 nombreuses et le choix est difficile. J'ai souhaité porter l'attention sur Paul Darras. Paul Darras, qui est né en 1901 à Saint-Antonin, qui est mort en 1986 à Saint-Antonin, et qui était instituteur. Alors évidemment, ma fibre d'instituteur a vibré un petit peu depuis toujours quand je voyais dans Saint-Antonin la frêle silhouette de Paul Darras. Paul en 1936, il était à Caylus. Il avait 35 ans, instituteur à Caylus. Et il était, j'ai pu le vérifier, sur la liste électorale de Caylus de cette époque-là, avant de devenir instituteur à Saint-Antonin. Il est, on peut dire, il a toujours essayé d'être dans le secteur que nous connaissons ici, Caylus Saint-Antonin. Il est donc rentré à l'école normale en 1917. Et grâce à Norbert Sabatier, j'ai la présentation qu'il fait de sa vie à l'école normale. C'est quelque chose de très très rare, parce que les instituteurs qui ont témoigné sur leur vie à l'école normale, on n'en trouve pas beaucoup. Je vais simplement reprendre un ou deux éléments qui vont, à travers la description qu'il fait, nous faire connaître en même temps Paul Darras. Il dit, la discipline à l'école, puisque nous étions externes, il faut que je m'arrête ici. Donc, nous sommes en 1917 et l'école normale de Montauban, effectivement, sert pour la guerre en partie, ce qui fait que, contrairement au règlement strict qui fait que tout normalien est interne, eh bien, à cette époque-là, donc, ils étaient externes. Donc, la discipline à l'école, puisque nous étions externes, il était impossible d'appliquer ici les mêmes règles que dans un internat. Je crois d'ailleurs que jamais notre directeur ne nous aurait imposé une discipline aussi stricte. Il nous traitait en adultes et de notre côté, par amour propre, par respect et amitié pour lui aussi, nous nous conduisions en adultes. Oh, n'allez pas croire que nous étions de petits saints, loin de là. Nous aimions, comme tous les jeunes, jouer, rire, chanter. Et quand notre équipe de rugby, le Boshing, de glorieuse mémoire, se déplaçait, notre wagon retentissait de chants joyeux, parfois un peu gaulois, comme il sied à l'agent estudiantine. Mais cela n'était pas très grave, et nous gardions tout de même une certaine mesure. Jamais M. Lalaurie, le directeur, n'eut à nous reprocher notre conduite en ville. Et nous nous efforçâmes de ne jamais porter un préjudice grave à la dignité et à la renommée de son école normale. On voit donc là un Paul Darras qui essaie de prendre la vie des deux côtés, le côté sérieux, le côté amusant. Il est sans doute un de ceux qui aiment le plus la vie. Voici ce qu'il dit sur son professeur d'école d'histoire et géographie. Voici Monsieur Violette, l'économe et professeur d'histoire et géographie, grand, corpulent, le visage coloré, orné d'une barbe tirant un peu sur le roux, l'œil pétillant de gaieté et de malice. Il était d'un abord facile. Il lui arrivait cependant d'être fort sévère, surtout pour ceux qu'il rencontrait en ville à une heure où ils auraient dû être dans leur pension de famille. Son cours, que ce fût en histoire ou en géographie, était toujours intéressant, plein d'érudition et aussi d'humour. Il savait agrémenter un exposé trop sévère de quelques savoureuses anecdotes. Ainsi, nous parlant de Murat, Charchant, à la tête de ses cavaliers, l'épée au poing, il ajoutait « Il brandissait son épée en chantant à pleine voix « J'ai le cul rond comme une pomme !» C'était la pose de sourire. En géographie, ainsi un frère, en avait-il un vraiment, était toujours le héros d'aventures curieuses. Il avait descendu en barque, et le seul, le cours de l'Amazone, et mesurait sa longueur avec une ficelle. Il avait au Brésil vu les chaudières des locomotives chauffées au café. Celui-ci ne se rendant pas bien. Excellent Monsieur Violette, qui ne fut jamais ennuyeux. Paul Darras, si je fais référence à son professeur d'histoire, c'est parce qu'il va se distinguer fondamentalement en devenant un grand savant préhistorien. C'est ce que nous allons découvrir après une petite pause musicale grâce à un texte de Michel Ferrer. Il est évident que pour s'intéresser à Saint-Antonin, il faut se reporter à ces volumes de l'abécédaire de Nobleval. La partie qui concerne Paul Darras, c'est dans le volume 2. Pour en savoir plus, je vous invite à lire ce volume et les autres.
La vie, comment la savoure? Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. L'une disait sois érudit, l'autre chuchotait rempli ton caddie.
Comment choisir entre les deux approches? L'une disait remplis ta tête, l'autre tes poches. Entre les deux difficultés, aucune chez moi n'a fait l'unanimité.
À n'appartenir à personne tu meurs, à trop entendre sors de ma demeure. À pas répondre ni merde, ni s'il te plaît, tout a manqué, tout s'est dépeuplé.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
La vie, comment la savoure? Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. Sans jamais s'octroyer demi-temps, se tirer dessus à bout portant.
Comment faire le compromis? Dire à l'une et à l'autre c'est promis. Avancer sans qu'elle se fâche, à l'oreille une fleur, à la taille une hache.
Oui, fallait être malin pour apporter de l'eau de moulin. Avec leurs ailes qui avaient tout démoli, en voyant la rivière changer de lit.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
Comment échapper aux deux maîtres? L'un visait du chiffre et l'autre des lettres. Comment déchiffrer le hiéroglyphe quand on n'est ni Champollion ni le calife?
Quand l'un dit pardonne et l'autre venge-toi, et tout ça sous le même toit. À pas vouloir choisir entre les deux édifices, t'es pour l'un et pour l'autre commis d'office.
À vouloir être pote avec les deux, l'un et l'autre te traitent de merdeux. Et tu meurs bouche ouverte dans les flaques, avec un requiem, dormez-vous frère Jacques.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
Ballotté, tu finis comme un de ces spécimens qui dit non merci à la race humaine.
Et pour pas être victime d'une horte-feu, un beau jour c'est toi le premier qui fait feu.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort.
la vie, à la mort.
Comme je l'ai indiqué, nous allons donner la parole à Michel Ferrer. Ce n'est pas un témoignage qui est dans son abécédaire, ça complète ce qu'il a pu écrire sur Paul Darras. Voici ce que m'a aimablement envoyé Michel, qu'il a intitulé « Une leçon de préhistoire ». C'est pas très long, mais pour moi, c'est extrêmement émouvant. Paul Darras était communiste. Mon père était communiste, avec Georges Estival et André Villeneuve, communistes aussi, ils formaient un groupe d'amis, de vrais amis. C'est pourquoi de temps en temps, l'un recevait les autres autour de sa table pour partager un repas amical et convivial où les enfants étaient invités. Il en était ainsi à l'époque. Aussi, je me souviens d'avoir mangé chez Paul Darras. Il habitait sur la Condamine, une maison dont l'entrée donnait sur la Bonnette. La salle à manger se trouvait au bout du couloir, les fenêtres donnaient sur un jardin où, à la fin du repas, les enfants, il y en avait de tous âges, étaient autorisés à s'échapper pour aller s'amuser. Ce jour-là, intrigués par des pierres et des cailloux plus ou moins curieux posés sur le plan du buffet, il y a toujours un buffet dans une salle à manger. Je n'étais pas sorti avec les autres garnements. Je m'étais approché du buffet, comme on me l'avait appris, les mains dans le dos. Je touchais les objets avec les yeux, des yeux interrogatifs, bien sûr. Paul Darras s'en aperçut et laissa ses convives en pleine discussion pour me rejoindre. « Tu sais ce que c'est ?»« Non, ce sont des grattoirs et des silex. Et regarde, il ouvre un tiroir du meuble, prend entre ses doigts une chose fine et allongée, blanche comme l'os. Ça, c'est une aiguille en os. » Comme je ne disais rien, car je ne comprenais pas que l'on puisse être si fier pour 4 ou 5 misérables cailloux et un bout d'os ténu, il me demanda. Tu as entendu parler de la préhistoire ? Non. Pourtant, tu es venu à Fontales avec ton père, et tu m'as vu au fond du trou. Oui, oui, je me souviens. Vous aviez un pinceau et vous brossiez la terre. Je dégageais un objet et je le faisais avec le plus grand soin pour ne pas l'abîmer, le rayer ou le casser. Durant quelques minutes, l'instituteur qu'il était me parla de sa passion. Il me parla de préhistoire mieux qu'il en aurait parlé à ses élèves. Moins 17 000 ans, moins 11 000 ans, j'ai halluciné. Plus tard, plus grand, j'ai compris que j'avais été un privilégié. Une leçon de préhistoire pour moi tout seul, fichtre. Mais quand j'en ai pris conscience, les trous de la station magdalénienne de Fontales avaient été comblés. Et je sais qu'il ne me serait jamais donné d'accompagner Paul Darras dans ses fouilles. Je le regrette encore aujourd'hui. Voilà le message un petit peu de Michel Ferrer. Et c'est vrai qu'il y aurait un grand livre à écrire sur Darras le préhistorien. Faut pas oublier que la préhistoire est étudiée seulement grâce d'ailleurs à quelqu'un qui était grâce à une découverte qui s'est faite à Bruniquel au moment de la construction de la voie ferrée. La préhistoire a commencé à s'étudier, on va dire qu'à partir de 1850. Parce que avant 1850, la religion étant ce qu'elle est, il n'était pas possible de parler au-delà de 5000 ans, la Bible avait dit que. Et c'est seulement petit à petit, que s'est imposée cette étude de la préhistoire. Et elle s'est imposée bien souvent par des personnes comme Paul Darras, des personnes qui n'étaient pas diplômées des grandes universités, puisqu'il n'y avait pas eu encore beaucoup d'études. Donc, je pense à Paul Darras, je pense aussi à quelqu'un dans mon coin maintenant, là-bas à Domagne, qui s'appelait Gilbert Breton, qui était un paysan et qui était devenu un collectionneur de fossiles de la plus grande importance. Paul Darras, bien sûr, à Saint-Antonin, n'était pas tout seul pour poursuivre ses découvertes sur la préhistoire. Tout a commencé, si l'on peut dire, avec la découverte de la grotte du Bosc. Eh oui, la découverte de la grotte du Bosc qui donna lieu à la création de ce qu'on a appelé la Société de spéléologie, d'archéologie et de tourisme. C'était en 1935, comme avec Jules Fourier, on retombe sur cette période si riche d'intelligence nouvelle qu'est Comment fut découverte la grotte du Bosque ? Bien, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les journaux, en particulier, bien sûr, dans les articles de la Dépêche du Midi. Je vais simplement lire l'article qui concerne les premiers visiteurs de cette grotte. Dimanche dernier a eu lieu l'ouverture tant attendue de cette merveille du sous-sol. La journée avait été en quelque sorte réservée aux Saint-Antoninois et amis voisins. Tous ceux qui ont visité la grotte en sont revenus enthousiasmés, regrettant qu'elle ne fût pas plus longue. C'est qu'à chaque pas, à chaque creux ou à chaque protubérance, il y a quelque chose à voir. Et que nous indiquerons ici dans quelques jours avec plus de détails. La grotte, de quelques centaines de mètres de long, est un ancien lit de ruisseau souterrain et est sèche, même en hiver. Les concrétions les plus diverses, les stalactites bizarres y foisonnent. Lentement, inconsciemment, chaque goutte, en se figeant, a modelé une forme inattendue que l'abondante lumière électrique fait ressortir. L'article se poursuit. Et cette grotte, bien sûr, elle a été un des instruments du tourisme de Saint-Antonin. Dans cette société de spéléologie, on retrouvait Pierre Bayrou, on retrouvait Albert Cavaillé, dont nous parlerons au cours de notre pérégrination en Tarn-et-Garonne. Albert Cavaillé, qui était là à ce moment-là, vous l'imaginez, en 1935, très jeune. Il y avait aussi Raoul Régis. Il y avait donc un groupe de personnes, un groupe d'intellectuels qui essayaient de faire vivre leur propre découverte. Alors, je termine, donc, après cet élément sur la préhistoire, mais ça serait vraiment infini. Il faut se reporter à l'abécédaire de Michel Ferrer, où c'est qu'il y a la liste de toutes les publications. de Paul Darras. Je vais simplement terminer par une petite histoire qui est dans l'abécédaire et qui va nous ramener au Paul Darras instituteur humain et à l'écoute des autres. Donc cette histoire, c'est un paysan hein, qui était comme métayer, c'est-à-dire qui travaillait moitié pour le propriétaire, moitié pour lui. Et ce jour-là, il s'aperçoit que la truie vient de faire une portée de 13 porcelets. C'était un samedi, ça tombait bien. Tiens, je vais à la ville, à Montauban, aujourd'hui, c'est jour de marché, je vais aller voir le patron, je lui annoncerai la nouvelle, il sera content d'apprendre qu'il a tant de cochons. Notre paysan va voir son patron, il est en train de manger, il est à table avec toute sa famille. Notre bon métayer entre avec toutes les civilités d'usage. Bonjour monsieur, bonjour madame, je vous souhaite bien le bonjour. Et alors, interroge aussitôt le propriétaire, qu'y a-t-il de nouveau mon ami? Oh, rien. En tout cas, pas grand-chose. Je venais seulement vous informer que la truie a fait 13 cochons. Oh, elle a 13 petits, vraiment, c'est formidable. Et alors, la femme du patron, qui était issue du monde de la terre, dit « Mais les truies, elles n'ont que 12 tétines. » « Eh oui, madame, » répond le métayer, « elles n'ont que 12 tétines. Ben, et que fera le malheureux troisième ?»« Eh, madame, il fera comme moi, il regardera les autres manger. » Voilà Paul Darras qui, par petites touches, par petites observations, essaie de voir le monde social et le monde de son cher Saint-Antonin Nobleval. La semaine prochaine, eh bien, nous continuerons à rester à Saint-Antonin Nobleval, mais nous continuerons à aller jusqu'à Verfeil pour parler de une dame cette fois, parce que nous venons de faire trois hommes. Il est temps de penser à une dame qui s'appelle Marcel Davé. Vous écoutez l'émission À nos mémoires, le portrait de Jean d'ici, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damaggio.